soir d'en savoir plus sur Radio Grand Ciel. Au micro, Elisabeth Couget. Bonjour à nos auditeurs et surtout, bonjour à mon invité, Patrick Géraudet.
Bonjour.
Bonjour, et je l'appelle le père fondateur du prix Fulbert de Chartres, qui sera, voilà, le prix Fulbert de Chartres sera le sujet de notre émission aujourd'hui. Alors cette année 2021 était plus que particulière, je n'ai pas besoin de le préciser, et la remise du prix Fulbert ne s'est pas déroulée comme d'habitude. Pour changer, c'est mon collègue Christophe qui vous a accueilli dans nos studios avec le lauréat 2021, n'est-ce pas ?
Oui,
pour ceux qui n'auraient pas entendu cette émission, relatant cet événement, je vous rappelle quand même que le prix Fulbert de Chartres 2021 était remporté par Michel Bernard pour son roman « Le bon sens », paru à la table ronde. Ce roman d'ailleurs était déjà préalablement couronné par le prix Alexandre Vialatte en 2020. Michel Bernard a pu faire le déplacement et a été présent à Chartres, il me semble, lors de la remise de prix, ou je me trompe, dites-nous.
Oui, tout à fait, il était présent et c'était un grand plaisir pour moi-même et les membres du jury de l'accueillir, parce que son premier poste en tant que sous-préfet a été à Nogent-le-Rotrou. Donc, dans les années, début des années 90, donc c'était intéressant parce qu'il connaît bien la région et il connaît bien Chartres. Donc il avait lui-même, je crois, plaisir à revenir sur les lieux de son premier travail en préfectorale.
Ah oui, il s'est retrouvé, bien sûr.
Mais il a écrit beaucoup de livres depuis. Et aujourd'hui, il a pris une retraite anticipée, en fait, pour écrire des ouvrages, ce qui est tout à fait vif de sa plume et pas facile de nos jours.
C'est un homme environ de quel âge ?
De je n'ai aucune 63 idée de... ans, je
60
crois.
Ans. Bon,
quelque chose près.
En forme de l'âge, au milieu.
Oui, très en forme.
Voilà, exactement. Et donc, c'est bien qu'il soit venu malgré la crainte que empêchait pas mal de personnes de bouger.
Oui, donc... il y a toujours cette pandémie qui circule. Donc, c'est toujours un peu difficile d'organiser comme on le voudrait tous ces événements. En particulier, tout au long de l'année, normalement, les membres du jury se réunissent régulièrement en présentiel. Là, on a eu plus de difficultés et on a fait des fois en se téléphonant, à travers les fiches quand même qu'on fait tous les ans. Mais ce n'est pas la même ambiance, c'est mieux de pouvoir se voir et de décider. Mais dans la période, déjà très tôt, on avait trouvé le livre de Michel Bernard dans les nominés très vite. On l'avait mis, Le bon sens, parce qu'on avait trouvé que c'était vraiment très bien. Ça correspond tout à fait à l'idée du prix Fulbert de Chartres, sur le Moyen-Âge. Ce prix Fulbert, c'est le 16e cette année.
Ah oui.
Vous voyez, les années passent.
Exactement, elles ne se ressemblent pas, n'est-ce pas ?
Non, à chaque fois.
Et au fait, quelle était la raison pour laquelle le jury a choisi ce livre-là, en particulier,
oui,
parmi d'autres ?
Alors évidemment, c'est tout à fait curieux, parce qu'à chaque fois, on a eu des livres sur Jeanne d'Arc pratiquement tous les ans. C'est un thème très porteur dans la littérature historique. Et à chaque fois, on a dit « Oh non, celui-là, ça ne va pas, celui-là, ça ne va pas ». Et vraiment, quand on a lu celui-ci, qui concerne Jeanne d'Arc, on a tout de suite, l'ensemble des membres du jury, on a trouvé que c'était très intéressant, parce que c'était une approche toute différente de Jeanne d'Arc, puisque c'est sa réhabilitation. En fait, il y a eu un procès de réhabilitation, 20 ans après qu'elle ait été condamnée et brûlée à Rouen. Et donc, ce procès va se passer aussi à Rouen, avec un peu les mêmes protagonistes, ce qui est un peu étonnant, parce que 20 ans après, ils sont encore là, et puisque le roi de France, Charles VII, reprend Rouen, et donc décide de faire ce procès. Et donc, c'est tout le problème de la collaboration aussi, qui va être développée, un peu comme on peut imaginer la Seconde Guerre mondiale. Parce que, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que c'est les mêmes qui ont collaboré avec les Anglais pour condamner Jeanne d'Arc, ils sont toujours en place. Que ce soit l'archevêque, que ce soit l'inquisiteur, l'archiviste, enfin, donc c'est très...
Il donne une...
Très particulier.
Je veux dire, il donne une explication pour quelles raisons ils ont fait ce choix-là. Non, jamais, ils ne reconnaissent pas leur erreur.
Non, ils ne reconnaissent pas leur erreur, mais malgré tout, Jeanne d'Arc va être réhabilitée. Et là, c'est très important pour le roi. C'est comme en 1944, qu'est-ce qu'on fait des collaborateurs ? Puisqu'il ne pouvait pas imaginer que le roi de France allait reprendre Rouen, qui était aux mains des Anglais depuis de nombreuses années. Et donc là, Charles VII a été quand même, je pense, pour la paix dans le pays, a été très bien parce que laisser les collaborateurs.
C'était un grand roi.
En fait, vraiment, ça m'a frappé parce que je connaissais un peu Charles VII. Bien sûr, on connaît le roi de Bourges et Chinon avec Jeanne d'Arc en particulier. Voilà. Mais là, on voit quand même qu'il a su réconcilier les Français, créer vraiment la notion de France, qui n'était pas si évident à créer à ce moment-là. Et je crois vraiment que c'était un grand roi qui a su reconquérir son royaume et faire la paix avec les Bourguignons, faire la paix avec l'Angleterre et pousser les Anglais hors de France. Il reste pratiquement plus Calais à la fin de son règne, qui sera aux mains des rois anglais. Donc c'est vraiment formidable. Et Louis XI continuera sur la
même. Il allait en avance. Voilà. Il fallait continuer.
Voilà, il a réunifié et il a passé outre à la collaboration. Et il a su faire vraiment quelque chose d'extraordinaire pour créer la France que l'on connaît aujourd'hui. Mmh. Donc c'est à travers un roman historique, qui est appuyé sur les archives du procès, Michel Bernard a su donner une envergure à Charles VII qui est intéressante parce qu'on ne la connaît pas spontanément en tous les cas.
Oui.
Et puis ça met la fin à la guerre de Cent Ans.
On l'a associé un petit peu avec la mort de Jeanne d'Arc, alors qu'il n'était pas fautif.
Il n'a rien à y voir. Ça, c'est Jeanne d'Arc qui s'est mise un peu toute seule dans le piège.
Absolument. C'est vrai qu'on ne touchait pas à Jeanne.
Oui.
Donc, c'est vrai que c'est étonnant parce que ce roman non seulement tente de réhabiliter Jeanne d'Arc, mais aussi à réhabiliter à nos yeux ce roi.
Oui, bien sûr, le thème est quand même Jeanne d'Arc.
Il ne faut pas l'oublier,
c'est quand même le thème central de l'ouvrage. Et c'est très détaillé à partir des archives, parce que tout le procès a été noté au moment, et donc tout le procès est encore là. Et donc, les enquêteurs et les juges reprennent tous les points et voient les erreurs du procès, la précipitation par moment, et donc expliquent que vraiment c'est une injustice.
Il y a une autre femme, finalement, dans ce roman, puisqu'on parle beaucoup de la magnifique Agnès Sorel.
Ah oui, oui. Ah ben oui, on dit que c'est la plus belle femme
du
Moyen-Âge.
Je voyais Patrick qui était tout étonné, il ouvert des grands yeux. Quelle était cette femme?
Alors, vous d'ailleurs... Elle est très présente à Loches. Si vous visitez le château de Loches, on a des histoires d'Agnès Sorel qui avait un front majestueux, la mode de l'époque.
D'ailleurs, actuellement, si vous alliez à Loches, vous n'aurez pas uniquement le plaisir d'aller sur les traces d'Agnès Sorel, mais actuellement, il y a une magnifique exposition consacrée au trésor de Naples.
Ah oui.
Donc, si vous vous promenez dans cette région-là, allez-y.
Oui, parce que aussi c'est l'héritage après Louis XI, ça sera l'héritage italien.
Voilà, exactement.
Donc c'est toute une autre histoire qui se tourne jusqu'à Marignan et Pavie.
Voilà. C'est vrai qu'on parle aussi de Jean Fouquet, le grand peintre, qui a totalement disparu. Donc finalement, c'est pas forcément réhabilitation, mais remise au goût du jour de différents personnages dans ce roman. Oui. Voilà donc les quelques mots qu'on pouvait dire de ce prix Fulbert, qui en méritait certainement plus. On en parlera peut-être encore un tout petit peu après, après une première pause musicale. Donc je vous propose quelques notes médiévales, chantées et interprétées par la Morache. Après cette douce musique de Moyen-Âge, nous nous retrouvons au studio de Radio Grand Ciel où mon invité Patrick Géraudet vient de nous parler du prix Fulbert de Chartres 2021 qui était remis aux lauréats au début de cet été. Je rappelle juste qu'il s'agissait du roman de Michel Bernard, intitulé « Le bon sens ». Retenez-le, très intéressant ce roman. Alors, on a parlé du roman tout à l'heure, mais que pouvez-vous nous dire de l'auteur, un peu de l'auteur, de Michel Bernard?
Alors, c'est un auteur qui est assez prolifique, comme souvent d'ailleurs.
Donc, vous disiez qu'il était effectivement au début de son...
Oui, parce qu'il a déjà une soixantaine d'années, donc il a pas mal écrit. Et il a connu de bons succès, comme l'ouvrage précédent sur Jeanne d'Arc, par contre, sur la période de Jeanne d'Arc. Et il a un style facile à lire, il est agréable à lire. Et il est un auteur qui est très reconnu dans les milieux chrétiens, d'ailleurs, où il a beaucoup de salons du livre chrétien. Et donc il a un style facile à lire. Je recommande vraiment Le Bon Sens pour cet été, sur la plage ou ailleurs, parce qu'il y a toujours des temps gris par moment, et c'est l'idéal de lire Le Bon Sens de Michel Bernard, parce que c'est une ouverture sur ce Moyen-Âge du XVe siècle que l'on connaît pour la plupart mal, et donc c'est une occasion de voir cette fin de la guerre de Cent Ans qui est, ma foi, une vraie victoire pour le roi Charles VII, après un siècle où, malgré tout, des alliances anglais, bourguignons ou autres ont failli mettre en péril la notion même de France.
Absolument, absolument. Alors, je voulais juste dire encore que Michel Bernard a choisi une très belle phrase du général de Gaulle à la présentation de son roman, ce qui est une parfaite introduction à ce roman. Voilà la phrase du général: l'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie.
Et c'est là qu'on rejoint un peu cette notion: que fallait-il faire en 1944 des collaborateurs? Que fallait-il faire après les victoires sur les Anglais, des collaborateurs avec les Anglais au XVe siècle? Il y a un parallèle, je trouve, intéressant entre les deux éléments, et cette phrase du fait du général de Gaulle en début d'ouvrage est bien dans l'idée de l'auteur, de Michel Bernard, de montrer la difficulté après une période d'invasion
obscure,
difficile pour un pays. Comment on relève un pays? Et je crois qu'on a besoin de toutes les forces, évidemment.
Heureusement que la Deuxième Guerre mondiale n'a pas duré 100 ans.
Non, mais la guerre de 100 ans n'a pas duré 100 ans non plus. Il y a des périodes de trêve.
C'était pas ininterrompu, heureusement.
Oui, bien que ça ait été violent quand même souvent, mais c'est vrai que, en plus, il y a beaucoup de défaites françaises, mais il y a quand même des victoires aussi, et surtout à la fin.
Voilà. Et maintenant, à nous, le prix Fermat de jeunesse, puisqu'en fait, notre rencontre aujourd'hui... voilà, va être consacré à cela. Alors Patrick, qu'est-ce que vous en pensez?
Alors là, c'est un très bel ouvrage.
Du roman et de l'écrivain.
De Jean-Claude Noguès, le faucon déniché. Malheureusement, Jean-Claude Noguès a plus de 87 ans, donc il n'a pas pu venir du sud de la France. Il est de Castelnaudary, où il est né. Il est toujours dans cette région. Mais il a beaucoup regretté. Il a envoyé une très belle lettre aux enfants, puisque l'organisation du prix Fulbert de Chartres Jeunesse est la suivante. Les membres du jury du prix Fulbert choisissent 3 ouvrages pour des jeunes autour de 10 ans, CM1, CM2, 6e. Et donc, ces 3 ouvrages sont distribués dans 3 classes qui changent, d'ailleurs régulièrement, 3 classes de Chartres de cet âge-là. Ils les lisent pendant 2 trimestres et il y a un vote de l'ensemble de ces enfants, donc environ 80-90 enfants.
Ils en parlent aussi peut-être en cours avec les
professeurs. Tout à fait, c'est leur sujet. Ils parlent de cette période du Moyen-Âge. Et donc, ils viennent à la médiathèque, alors qu'on ne compte pas du tout cette année, évidemment, ça a été par correspondance, quoi. Ils l'ont fait, oui. Enfin, ils nous ont envoyé leurs résultats. Ils ont voté dans chaque salle, dans chaque classe. Mais normalement, c'est à la médiathèque. Et il y a un isoloir, ils votent. Il y a les 3 petits bulletins. Mmh. Ils les mettent dans l'urne, ils signent. Donc, c'est vraiment aussi un peu d'éducation à la citoyenneté. Et puis, ils nous lisent des passages, ceux qu'ils ont mieux aimés. Enfin, et puis, voilà. Donc, là, cette année, ça a été le cas... un peu différemment, mais malgré tout, les 3 classes qui ont voté. Et on a les grands fidèles qui sont le Grand Jardin, mais on a eu la Brèche, Saint-Jean.
Donc les écoles, enseignants jouent le jeu sérieusement.
Oui, tout à fait. Vraiment, c'est avec plaisir qu'on travaille avec un certain nombre d'écoles de la ville. Et donc là, Le Faucon déniché...
Parce que c'est le titre, on ne l'a pas encore cité.
Le Faucon déniché de Jean-Côme Noguès. Alors ça, vraiment, c'est un livre... très, très agréable à lire.
C'est pas son premier roman.
L'histoire de Martin. Non. Oh là là, c'est, il a écrit énormément,
Jean-Claude Noguès,
une trentaine d'ouvrages. Mais celui-là est un de ses premiers parce qu'il l'a écrit en fait en 1972. Mm-hmm. Mais il est réédité régulièrement et nous, c'est une édition. Donc on a estimé qu'il rentrait quand même dans les publications récentes parce qu'il a été réédité.
En général, on choisit des livres qui sont récents.
Alors pour le prix Fulbert de Chartres adulte, oui, toujours. C'est des livres de l'année, enfin ils ont 2 ans au maximum. Tandis que pour le prix Fulbert de Chartres jeunesse, on est plus libre dans notre affaire parce qu'on estime que les élèves changent tous les ans, de toute façon. Et il y a quand même des grands classiques, comme Jean-Claude Noguès, qui a été plusieurs fois nominé, mais jamais lauréat. Donc, c'est drôle parce qu'à la suite du Faucon déniché, il a écrit L'enfant de la forêt en 2011 et Le chemin des collines en 2014. Donc, c'est une trilogie, d'ailleurs, maintenant. Et L'enfant de la forêt a été nominé en 2011. Mais il n'avait pas eu le prix.
Déjà à l'époque.
Oui, déjà à l'époque, quand j'ai regardé mes archives, j'ai dit, mais oui, j'ai déjà eu Jean-Claude Noguès.
Si vous disiez ce nom, vous disiez quelque chose.
Bien c'est un des grands classiques, en fait. Ouais. Et Le Faucon déniché, c'est son plus grand succès. Mm-hmm. Et c'est vraiment une très belle histoire. En fait, la vie de Jean-Claude Noguès est largement un enseignant et un principal d'un établissement parisien, avant de prendre sa retraite dans son pays natal. Mm-hmm. Donc, il a vraiment ce côté... Alors lui, c'est aussi pareil, facile à lire. Ce qu'on nous demande des enseignants, en CM1, CM2, faut être assez facile à lire. Pas trop épais.
Non.
Mais c'est le cas aussi du bon sens, pas trop épais cette année,
vrai,
parce qu'il y a des années où on a des pavés
mais
plus.
Mais le bon sens, ça se lit moins
ah bah c'est pas pareil.
Parce que ça demande un peu de réflexion malgré tout.
Oui, c'est pas la même chose. Mais c'est vrai que aussi le bon sens, pour une fois, c'est un livre qui est pas trop long. Des fois, on a des pavés.
Je voulais aussi citer le nom de Guillaume Brenon, qui a illustré ce livre. Et c'est vrai que, surtout pour les romans d'enfants, l'illustration est toujours agréable. Mais peut-être que dans mon âme, je suis restée un enfant. Je suis toujours très contente dans les romans pour adultes, que je dévore en général, de trouver quelques images.
Oui,
j'aime
alors,
beaucoup.
Oui.
Je trouve que c'est toujours plaisant de retrouver, voilà.
Et c'est très important parce que les illustrateurs ne sont pas toujours cités, comme d'ailleurs la maison d'édition Nathan, que j'avais omis de citer, qui est un...
Alors, les jeunes, comment ils l'ont choisi? Qu'est-ce qu'ils en ont pensé? Ils étaient...
Alors, je pense que c'est drôle parce qu'on a quand même à peu près autant de filles que de garçons. Et je pense que ça a bien plu aux garçons cette année. Il y a des fois, ça dépend. Des fois,
oui, parce qu'on se demande, un enfant du 21e siècle, finalement, comment se retrouve face au faucon, qu'est-ce qu'ils en pensent?
Oui, c'est évidemment. Et puis, il y a toute cette notion d'obéissance.
Oui.
Ou désobéissance dans ce cas puisque sa mère le met en garde énormément plusieurs fois. Il sait qu'il fait quelque chose qui n'est pas bien.
Bien sûr, mais il ne pouvait pas s'en empêcher.
Voilà, c'est un peu terrible pour lui.
Mais en fait, il cherchait juste l'amitié d'un animal, c'est un enfant solitaire.
Oui.
Et en plus, il ne voulait pas qu'il devienne méchant.
Et en plus, il ne voulait pas que ce faucon soit un faucon qui attaque, parce que le faucon qui sert à la chasse. Lui, c'était un faucon ami. Il l'a élevé dans ce sens-là. Mais bien sûr, le faucon a été remarqué, parce qu'un faucon, ça vole, et le faucon n'appartient qu'au seigneur.
Exactement,
donc,
oui, c'est vrai.
Le maître fauconnier va trouver élève un si beau faucon, le plus beau faucon.
C'est ça, exactement. Mais surtout que, en plus, cette chose, effectivement, auquel on ne peut pas toucher, ça attire beaucoup les enfants. Ça a toujours été le cas de tous les enfants. Parce qu'il faut savoir que le faucon était un privilège de la noblesse. C'est comme la vigne, enfin, il y a toute une tas de choses qui n'étaient pas à la portée des manants.
Oui, Martin est le fils d'un pauvre paysan, comme on peut dire à l'époque.
Il était bûcheron, le père.
Il ne faisait pas grand-chose. Enfin, bon, il avait du mal à vivre.
Oui, absolument.
Donc, lui, il a cette évasion avec ce faucon, qui est une merveilleuse évasion, qui va le conduire en prison au château.
On en reparlera peut-être après une nouvelle petite pause.
Oui. Mais c'est vrai que c'est attachant.
Musical.
Alors, je pense que c'est plus un livre... Bon, c'est pour les garçons et pour les filles, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est l'histoire d'un petit garçon. C'est plus facile pour un garçon de s'identifier.
Voilà.
Quand on est Aliénor d'Aquitaine, on est plus... peut-être une fille sera plus touchée par l'histoire de cette reine. C'est toujours un peu intéressant.
Oui, c'est vrai que les princesses, encore, c'est toujours pas les garçons, malgré tout ce qu'on dit aujourd'hui.
Malgré tout.
Les princesses, c'est comme
oui, là, je parle du genre, mais c'est...
on va pas aller trop loin. Non. Voilà. Bon, bah, allez, vrai. Encore une petite... pause musicale pour nous. Histoire d'en savoir plus sur Radio Grand Ciel. Aujourd'hui, mon invité est Patrick Géraudet. Alors, il faut dire, vous êtes adjoint au maire de Chartres et responsable surtout du rayonnement de la ville, de notre ville, de cette belle ville de Chartres, en Europe
et oui,
même par le monde.
Par le monde, oui, puisque voilà. Nous avons des partenariats au Japon, en Argentine et à Bethléem, en Palestine.
Mm-hmm. Je voulais juste encore dire un petit quelque chose à propos des prix qui ont été attribués les années précédentes, puisque nous parlons des prix Fulbert de jeunesse. Maintenant, dans cette deuxième partie de notre émission, dans cette troisième bientôt maintenant, et je voulais juste citer quelques titres qu'on avait vus. Donc, il y avait dernier, pas si longtemps, mais très loin, le premier, c'était Les Voiles de Frédégonde.
Oui, mais ça
donc,
remonte loin, là,
dites-nous. Donc, voilà, 2007, hein. Voilà, il y avait La Couleur du Crime. Alors ça, c'était autre chose, hein. Mm-hmm. Il y avait Le Trésor du Moyen-Âge.
Oui, c'était
puissants.
Un documentaire.
Le Mystère des Pierres, c'était une sorte de petit policier pour les jeunes.
Mm-hmm. Donc, c'était bien aussi, oui. Mais à chaque fois, je les trouve très bien.
Oui.
Vraiment, je conseille aux parents de soit le prendre à la médiathèque, soit de l'acheter. Nos prix Fulbert de Chartres jeunesse sont vraiment faciles à lire. Et je trouve un côté pédagogique intéressant, des éléments sur la civilisation au Moyen-Âge, sur l'histoire du Moyen-Âge. Et donc, vraiment, Le Faucon déniché, c'est une très bonne... Jean-Côme Noguès, c'est une très... de chez Nathan, c'est une très bonne lecture pour l'été. Là, nous allons être bientôt au mois d'août, c'est l'occasion des vacances. Et vraiment, c'est un petit livre... Vraiment un livre de vacances, moi
bien
je trouve,
sûr, qu'il
se lit facilement, et cette histoire de Martin est très attachante.
Alors disons donc, nous revenons à Martin, qui est notre héros, qui est le fils du bûcheron du village, où les paysans vivent plus que chichement. Heureusement, il y avait le Seigneur, le bon Seigneur Guilhem, qui les protégeait, puisque c'était un peu le rôle, normalement, à l'origine, le
oui.
Seigneur était là pour protéger les paysans, eux, ils travaillaient et ils payaient, enfin, je veux dire, ils payaient de leur force,
de leur travail,
de leur
personne. Oui.
Voilà, exactement. Oui, partager ce qu'ils récoltaient, enfin, c'était une manière de vivre, mais normalement, ils étaient là pour les protéger,
oui.
et ils chassaient.
Et
le faucon.
La cour du château était là pour les protéger en cas d'attaque.
Exactement.
Et ce qu'on voit dans le roman, d'ailleurs, tous les paysans se réfugient
exactement.
Dans la cour du château quand il y a une attaque qui va avoir lieu. C'est ça aussi le rôle du seigneur. Le seigneur n'est pas particulièrement riche, d'ailleurs.
Non.
Mais bon, il vit.
C'est lui qui a des armes et il avait l'habitude déjà, parce qu'il a hérité de ça et du château et du devoir qu'il avait de...
Et la chasse, c'est vrai.
Et la chasse,
la chasse est un élément clé dans cette histoire.
Alors, il y a quand même, je veux dire, il y a un moral, voire même plusieurs dans ce livre, je trouvais. Finalement, il y a une amitié qu'on peut ressentir pour n'importe qui ou pour n'importe quoi. Peut-être pas un objet, mais un oiseau, pourquoi pas. Et puis, quand on veut quelque chose, on peut. Parce que...
Ah ben, il est très déterminé, notre petit Martin.
C'est ça.
Peut-être un peu trop, d'ailleurs.
Un peu trop. Il est trop courageux, parce que finalement, il est courageux. Ça fait partie aussi de ses qualités,
oui.
quand même.
Oui, oui, il y a une scène...
Oui, le courage, il est finalement
il
face
saute,
à l'adversaire.
Là,
il est...
Il saute pour sauver son seigneur.
C'est remarquable. Il protège le village. Il est capable même de donner de sa vie éventuellement s'il le faut pour avertir du danger. Puisque il a été enfermé dans une tour haute d'où il avait une vision très longue et lointaine du paysage et il voyait arriver les ennemis qui arrivaient.
Je ne voudrais pas en dire trop, parce qu'il faut lire pour comprendre, mais c'est vrai que là, il fait un acte de courage que le Seigneur reconnaîtra.
Oui.
C'est vraiment...
Et puis, il refuse la violence. Dans ce monde, dans cette époque qui était quand même violent, il refuse.
Il essaye de... D'ailleurs, c'est aussi un signe d'amitié avec ce faucon. Il ne veut pas que ce faucon soit un faucon méchant, en fait, quelque sorte. Le faucon sert à la chasse. Et lui, il veut en faire un ami. Il est un ami avec lui, ce faucon.
Et finalement, ce qui est terrible quand même, c'est que c'est la méchanceté qui va gagner, enfin la force pour cet oiseau. Parce qu'il est né pour faire ça. C'est dans ses gènes.
C'est l'éducation.
On ne peut le changer.
C'est son éducation.
C'est
l'éducation de l'oiseau, du faucon. Oui, c'est vrai.
Donc, vous disiez que Jean-Côme Nogues avait continué l'histoire de Martin.
Oui, beaucoup de temps après, puisque c'est près de 40 ans plus tard, il a écrit L'Enfant de la forêt, qui est la suite, on retrouve Martin, et puis Le Chemin des collines, qui finit cette histoire.
Ben voilà,
c'est une trilogie maintenant.
Pour les enfants, ça pourrait être intéressant de connaître la suite de cette histoire-là et de suivre la croissance de ce garçon. J'imagine que plus il était un peu plus grand dans ses livres, peut-être
légèrement, mais c'est très rapproché.
C'est toujours comme... un enfant, voilà, c'est ça.
Oui, c'est toujours pour les enfants de cet âge-là, de CM1, CM2, 6e, 5e.
Alors, je suppose, Patrick, le cuvée 2022 a déjà...
est en préparation, puisque comme vous le savez, on donne les ouvrages aux enfants début octobre, les trois ouvrages qui seront les nominés de 2022. Donc c'est déjà en cours. Mais comptez pas sur moi pour vous parler de 2022. Ça sera un excellent cru, aussi bon que 2021.
Je n'aime pas dévoiler les secrets. Non, c'est intéressant. Je voulais juste m'en assurer que ça ne s'arrête pas là et que ça continue et que vous êtes en train de vous continuer à travailler là-dessus.
C'est sûr qu'on est très en avance sur l'événement. C'est pour ça que des fois, les ouvrages sont de l'année... Par exemple, on a des ouvrages adultes de 2020.
Oui.
Parce qu'on est très en avance. Il y a d'autres jurys qui travaillent différemment. Nous, on travaille un peu
Prenez votre temps et c'est bien. Et puis il y a beaucoup de livres.
Et on est complètement indépendant de toute maison, de toute chose. On se pose pas la question s'ils ont déjà eu un prix, s'ils sont célèbres.
Ça n'a pas d'importance. Voilà.
C'est après coup des fois.
C'était un peu ça. Je dirais même qu'il serait intéressant peut-être un jour de refaire une émission qu'on relate un petit peu les prix Fulbert, un petit peu redonnant les titres et puis quelques petites choses à en savoir. Peut-être ça donnerait. On le remettra au goût du jour, mais ça serait peut-être le sujet d'une autre période, d'une autre émission.
C'est vrai, parce qu'on a souvent couronné des gens qui ont fait une carrière après ou qui étaient connus, comme Clara Dupont-Monod. Moi, je ne connaissais pas RTL, donc je ne connaissais pas. Enfin, on a eu beaucoup de noms, et quand je dis, mais jamais il viendra à Chartres. Et j'ai toujours eu le lauréat du prix Fulbert. C'est ça qui est vraiment formidable.
C'est
merveilleux. À chaque fois, on me dit, mais regarde, il est très connu, il passe à la télé tout le temps. Ah bon. Et en fait, ils viennent, et ça, je suis très, très reconnaissant aux lauréats, parce qu'ils sont si gentils, si aimables de venir et de parler avec le public.
Je trouve ça reconnaissant, finalement.
Ils sont contents, alors que on n'est pas un grand prix littéraire.
Ils sont reconnaissants de la reconnaissance qu'on leur propose.
Oui, et ça, je trouve ça très agréable.
Mais je pense que pour un auteur, de rencontrer son public est très particulier. Voilà pourquoi le prix Fulbert de Chartres, entre autres, est si intéressant et heureusement, grâce à Serlan Delaire, avec qui vous avez travaillé ensemble.
En 2006,
Exactement, en 2006. Mmh. Donc, petite pensée pour Serlan qui nous regarde là-haut maintenant. Merci Patrick d'être venu.
Merci.
Et je vous souhaite un bon été.
Et bonne lecture à vous tous.
Merci beaucoup. À bientôt.